Vous êtes sur RTL.
Votre journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Nordal-Lelandais soupçonné d'un troisième meurtre.
Le témoignage lundi sur RTL de son ex-compagne a conduit la famille d'un jeune homme à porter plainte. Un garçon de 18 ans retrouvé mort en 2015 en Savoie. Le taux de pauvreté en forte hausse en France. Première explication, le coût du logement. Et puis nous reviendrons sur ce vol d'une montre à 800 000 euros en plein Paris. On en parlait la semaine dernière. En fait, elle était fausse, nous dit Ryan Boucherie.
Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Signy.
Bonjour à tous.
Vous surfez à la Foire internationale d'art contemporain. Elle ouvre ses portes à Paris.
Et on va élever un peu le niveau en aiguisant votre sens du goût artistique.
Le temps, deux fois, d'ici 7h avec vous Marina.
Et un temps couvert et pluvieux à Arcachon en Gironde avec une température cet après-midi de 21 degrés.
RTL Matin.
Une troisième victime de Nordal-Lelandais a-t-elle été identifiée?
La famille d'un jeune homme disparu en décembre 2015 en Savoie a décidé de porter plainte contre X pour meurtre. C'est une information RTL. Elle va aussi demander son exhumation. Le corps de Thomas Rochekolb avait été retrouvé près d'une rivière à Grésy-sur-Aix. On avait d'abord cru à l'époque à un accident, une thèse qui ne tient plus d'après ses proches, Serge Puyot.
Cette plainte pour meurtre visant Nordal-Lelandais a été déposée après les confidences lundi sur RTL de son ex-compagne évoquant la mort d'un jeune homme de 18 ans en 2015 en Savoie.
C'est celle de Thomas Rochekolb. Et en fait, je vais me souvenir qu'on a eu une violente séparation d'un mois à peu près. Ça a été très violent pour lui, il est très en colère contre moi. Je trouve qu'il y a des similitudes avec l'état de frustration et de colère qu'il avait juste avant l'assassinat d'Arthur Noyer. En tout cas, ça m'interpelle.
Après une soirée en discothèque, Thomas Rochekolb a été retrouvé mort sur les berges d'une rivière, au pied d'une falaise. Pour son père Francis, il ne s'agit pas d'un simple accident, comme l'a conclu l'enquête.
Pour moi, il a été agressé, il a fui quelque chose. Ce qui me conforte, c'est le témoignage de l'ex-compagne de Lelandais. On est face à un prédateur dangereux. Creuser la piste Lelandais est plus que nécessaire.
Et l'avocat de la famille de Thomas, maître Bernard Boulou, va demander l'exhumation du corps du jeune homme.
C'est impératif. Il faudra qu'on vérifie s'il y avait eu des fractures en lien, par exemple, avec une agression.
Pour le père de Thomas, la vérité sortira peut-être du cercueil de son fils.
Les informations de Serge Puyot pour RTL. Il n'y a plus de gardé à vue dans l'enquête sur l'attentat à la préfecture de police de Paris. Les cinq personnes de l'entourage de Michael Harpon, interpellées lundi matin à Gonesse dans le Val-d'Oise, ont toutes été relâchées. Parmi elles, un imam fiché pour radicalisation. Le tueur fréquentait sa mosquée. La mère de famille voilée qui avait été prise à partie par un élu du Rassemblement National vendredi dernier en pleine séance du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté va porter plainte pour violence en réunion à caractère racial et provocation à la haine raciale. C'est ce qu'annonce le collectif contre l'islamophobie en France. Et Emmanuel Macron est sorti du silence sur ce sujet alors que des voix discordantes se font entendre au sein du gouvernement. Faisons bloc et ne nous divisons pas. Il appelle à ne pas mélanger terrorisme et islam.
RTL 6h33, troisième nuit de violence en Espagne.
Les tensions ne retombent pas dans les principales villes de Catalogne après la condamnation à de lourdes peines de prison de plusieurs leaders indépendantistes. À Barcelone, des centaines de jeunes ont encore affronté des policiers anti-émeutes cette nuit en leur lançant des pierres et des bouteilles. Un touriste français a même trouvé la mort en début de semaine alors qu'il tentait de rejoindre avec sa femme l'aéroport de la ville. Aurélie Chameroy.
Ce couple de touristes français n'aurait jamais pu imaginer devoir se rendre à pied à l'aéroport de Barcelone. La décision des indépendantistes de se déplacer à l'aéroport pour le bloquer a été soudaine et inattendue. Pour frustrer le plan des manifestants, les autorités ont alors coupé tous les transports publics reliant le centre de Barcelone aux deux terminaux. Comme des centaines d'autres, sous la chaleur et bagages à la main, ce couple de sexagénaires français a donc dû marcher plus de 3 km pour tenter de prendre son avion à l'heure. C'est lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport et que l'épouse est allée chercher les cartes d'embarquement que son mari a été victime d'un malaise cardiaque. Immédiatement secouru par le SAMU sur place, il a ensuite été transporté par hélicoptère dans l'hôpital le plus proche, mais il n'a pas survécu.
Aurélie Chameroy en Espagne pour RTL. À 15 jours du Brexit et à quelques heures du sommet européen, un accord semble se dessiner entre Londres et Bruxelles. Michel Barnier, qui est en charge des négociations, et Emmanuel Macron se sont montrés hier soir très optimistes. Le principal point d'achoppement développement concerne encore et toujours la frontière entre les deux Irlandes. Les deux Mike en mission aujourd'hui en Turquie. Le vice-président américain Mike Pence et le patron de la diplomatie Mike Pompeo rencontrent Erdogan pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu dans le nord de la Syrie. Cela fait une semaine que les Turcs ont lancé leur offensive contre les Kurdes.
Le gouvernement bien décidé à déminer sur les retraites.
Un plan B est dans les cartons, nous apprend ce matin le journal Les Échos. L'entrée en application de la réforme pourrait être retardée alors que la pression des syndicats s'accentue. Ils appellent finalement tous à la grève pour le 5 décembre.
On reviendra sur cette opération déminage juste avant 7h avec notre expert Martial Diouf.
On le disait en titre, il y a de plus en plus de pauvres en France. C'est ce que nous apprend le dernier rapport de l'INSEE. Le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté était de 9,3 millions l'an dernier contre 8,9 en 2017. On était jusqu'à présent sur des chiffres relativement stables. Éric Vanier, ce qui pèse dans le budget, c'est le logement.
Oui, c'est le coût du logement qui plombe le budget des ménages les plus modestes, car les appels ont été reniés. Le loyer HLM à payer pèse de plus en plus lourd et les mesures en faveur du pouvoir d'achat prises l'an dernier n'ont pas vraiment permis de compenser. Les personnes les plus pauvres n'ont rien retiré de la baisse de la taxe d'habitation. Elles étaient déjà exonérées et n'ont pas profité de la chute des taux d'intérêt immobiliers, car ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens de devenir propriétaires. Elles n'ont rien gagné dans la réduction des cotisations sociales sur les salaires, car elles sont souvent sans emploi. Et les mesures décidées pendant la crise des Gilets jaunes ne sont entrées en application que cette année. Les chiffres de 2018 de l'INSEE font donc apparaître effectivement une progression du taux de pauvreté de 0,6 points, la plus forte hausse depuis 8 ans. En revanche, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres est resté quasiment stable l'an dernier.
Merci Eric Vanier. Une nouvelle fois, on le constate, les riches sont de plus en plus riches dans le monde et les pauvres de plus en plus pauvres. Attention à la bombe à retardement, prévient le prix Nobel de la paix, celui que l'on surnomme aussi le banquier des pauvres, Mohamed Younous, il était l'invité d'RTL Soir.
Tout repose sur un système qui a un mécanisme qui fait que toute la richesse est concentrée vers le haut. Donc évidemment, il y a beaucoup moins de richesse pour le bas de la pyramide. Donc le résultat, il est inévitable, c'est l'inégalité des revenus qui ne cesse de s'accroître. Et ça, ça va continuer. Et c'est une tendance mondiale. Ce n'est pas juste la France qui est concernée, c'est réellement une tendance mondiale. La richesse se concentre dans quelques pays et dans la main de quelques personnes seulement. Et pourtant, les choses vont empirer dans les années à venir. Mais il faut agir rapidement pour changer le système. Sinon, ça va être une bombe à retardement qui va exploser et la société va exploser de colère parce que la grande majorité des uns et des autres ne reçoivent rien.
Mohamed Younous, prix Nobel de la paix avec Thomas Soto hier soir sur RTL.
Allez, une pause dans ce journal sur RTL et dans un instant, vous allez entendre la colère de ces mères de famille menacées par des dealers en Seine-Saint-Denis. À tout de suite.
RTL Matin, Julien Cellier.
Et la suite de votre journal à 6h39 sur RTL. Pas facile en Seine-Saint-Denis de dénoncer les dealers.
Vous avez déjà entendu, notamment sur RTL, ces parents d'élèves qui font barrage autour de certaines écoles pour éloigner les trafiquants de drogue. Certains ont depuis reçu des menaces. La mairie de Saint-Denis est d'ailleurs prête à reloger des familles aujourd'hui en danger, comme celle de Fabienne. Son quotidien et celui de nombreux parents d'élèves est devenu invivable.
Au cœur du trafic, vraiment. Leurs voitures sont dégradées, elles se font insulter dans la rue. On sonne à leur interphone la nuit pour les réveiller. Voilà, ce genre d'incivilité, très proche du délit. Tout ce qui touche l'un de nos membres nous touche tous. Constance, parfois, quand elle arrive devant chez elle, trouve des types en train de rôder, des types qui n'ont rien à faire ici, hein. Donc c'est clairement de l'intimidation. C'est inacceptable. Plusieurs mamans demandent à être logées pour des raisons d'insécurité. Quelle personne a envie de vivre au milieu du trafic ? Quelle personne a envie d'avoir à décliner son identité quand elle rentre chez elle ? Au point où on en est là, on ne peut plus lâcher. Ça signifierait quoi si on lâchait maintenant ? Que tout ce qu'on a fait avant, ça ne sert à rien ? On a des enfants à élever, à préserver. Voilà, on ne va pas lâcher sur ça.
Témoignage recueilli par Vincent Serrano. 3 semaines, jour pour jour, après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, les analyses biologiques réalisées sur les pompiers qui sont intervenus sur place révèlent des anomalies pour au moins 10 d'entre eux avec des bilans hépatiques perturbés. Certains pourraient porter plainte.
Enfin, depuis 10 minutes et les titres de votre journal, nous attendons avec impatience cette histoire, Jérôme, dont vous nous parliez la semaine dernière. Le vol d'une montre à 800 000 euros. euros.
Oui, montre arrachée au poignet d'un homme d'affaires japonais en plein Paris. Il s'avère, Yann Bouchery, que cette montre était en toc.
Oui, on espère au moins qu'elle donne l'heure, mais la montre dérobée le 7 octobre n'était pas une tourbillon Diamond Twister qui coûtait, selon son propriétaire, le prix d'un 80 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris. Il y a 10 jours, vers 21h30, cet homme d'affaires franco-japonais fume tranquillement devant l'hôtel Napoléon, avenue de Friedland, près des Champs-Élysées. Un individu l'aborde pour lui réclamer une cigarette. Le temps qu'il sorte son paquet, le voleur lui arrache la rutilante breloque affichée à son poignet avant de prendre la fuite, mais il fait tomber un téléphone portable. L'enquête menée discrètement par la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire a permis de déterminer qu'il s'agissait d'une contrefaçon. Alors plusieurs questions se posent ce matin. Quel est le degré d'implication du propriétaire? Le malfaiteur était-il un complice pour une escroquerie à l'assurance? Ou a-t-il vraiment cru s'emparer d'un luxueux modèle de montre? Si c'est le cas, il risque maintenant de se faire passer les bracelets pour une babiole.
Merci beaucoup Yann Boucher. En tout cas, votre montre, elle vaut bien 12,35 €.
Ah, pas
d'accord.
Plus, je vous le confirme.
C'est vrai que le prix est assez limité, je pense. Ça ne nous arriverait pas de la voler. Merci beaucoup Jérôme.
C'est sympa.
À 8h avec Yves Calvi. Le temps.